On reprend donc ces travaux avec ce panel sur l'éthique et l'économie. Comme vous l'avez entendu ce matin, Wayne Norman, qui devait se joindre à nous, n'a pas pu faire le voyage de New York en raison de Sandy, l'ouragan évidemment. Et donc, en remplacement de Wayne Norman, nous avons la présence exceptionnelle de Dominique Martin de l'Université de Toronto et de Peter Dish, qui est donc le directeur de l'axe éthique et économie. Je vais donner la parole dans cet ordre-là, d'abord à Laurent Debris. Laurent Debris, qui nous vient de l'Université d'économie et de sciences sociales de l'Université de Namur, donc en Belgique, et qui est chercheur invité cette année au CREOM. Alors, pour dire un mot de son travail, il travaille sur l'idée d'un républicanisme critique qui serait une forme de dépassement du libéralisme politique. L'idée étant que il faut, dans les sociétés ouvertes actuelles, l'institutionnalisation d'une délibération sur les valeurs et les pratiques culturelles. Et en ce sens, il se sépare d'une idée qui a été largement rawlsienne, d'une séparation du domaine du politique et du compréhensif ou de la morale compréhensive, ou bien encore du juste et du bien. Non pas, il ne remet pas en cause la priorité du juste sur le bien, mais plutôt cette séparation. Alors on lui doit deux ouvrages en particulier, Le conflit des paradigmes, qui porte sur Habermas, Renault, et donc deux stratégies de renouvellement du projet moderne. On a un des ici présent. Et en 2009, Le sens du politique, un essai sur l'humanisme démocratique. Donc je te donne la parole pour quelque chose comme 12 minutes.
Ok, mais l'intervention d'aujourd'hui sera fondamentalement différente puisqu'on est dans l'axe éthique et économie. Moi, mon propos était de commenter le texte de Marc Fleurbet, le texte présenté dans les ateliers de l'éthique. Alors, je vais faire une très brève présentation de ce texte que vous pourrez lire de manière complète si vous le souhaitez, et puis je vais le commenter. Donc, le mandat de Marc Fleurbet était de se situer, d'imaginer les 10 ans prospectivement de l'axe en éthique et économie, et ce qu'il fait, c'est, au lieu de réfléchir de manière prospective, c'est qu'il se décide de réagir de manière rétrospective à ce qu'il s'imagine en 2022. Donc, c'est une figure rhétorique. Il s'imagine en 2022 et nous décrit le renouveau qu'a pris ce qu'il appelle l'économie normative suite à son tournant empiriste et welfariste et qui lui aurait permis de se replacer au centre des recherches économiques. Alors qu'est-ce qu'il entend par là ? Ce renouveau de l'économie normative, elle viendrait du développement de l'économie du bien-être, donc un renouveau utilitariste, où le problème des comparaisons interpersonnelles aurait été résolu par le recours massif à des enquêtes empiriques sur la satisfaction de vie ou le sentiment de bien-être subjectif. Et parallèlement à ça, on observera, selon lui, un déclin de la théorie du choix social, qui est peut-être, tel que présenté par Marc Fleurbet, le domaine le plus vivant depuis, on peut dire, le dernier demi-siècle en économie normative, la théorie des choix sociaux, qui est essentiellement centrée sur le problème du passage des préférences individuelles aux préférences collectives. Mais cette théorie du choix social se caractérise par un formalisme important, par une méthode axiomatique et par une technicité très forte qui, en fait, réduit assez fortement ses possibilités d'abord de compréhension pour des non-économistes et aussi de pertinence politique. Donc il caractérise cette théorie du choix social, dont il est un des promoteurs les plus importants actuellement, en langue française notamment, il caractérise d'une relative impuissance politique. Par contre, ce renouveau welfariste donne à l'économie normative une puissance politique beaucoup plus forte. S'il ne le dit pas explicitement, il fait le lien avec des controverses politiques ou des questions qui apparaissent à l'agenda politique de plus en plus et qui sont tournées, notamment dans le contexte de crise économique, sur la question des indicateurs de développement. Pensez à, notamment en France, la commission qui avait mis en place Nicolas Sarkozy avec plusieurs prix Nobel, dont Amartya Sen ou Joseph Stiglitz, qui avait comme mission de réfléchir à quel serait un bon indicateur, un indicateur plus complet fait que le produit intérieur brut, dont de manière relativement récurrente aujourd'hui, on met en évidence les limites en tant qu'indicateur pertinent de ce développement. Alors au-delà de la commission Stiglitz, Saint-Stiglitz, il y a également beaucoup de travaux de l'OCDE ou même de la Commission européenne, pour rester dans le contexte européen, qui se portent sur vraiment cette remise en question. Il y a notamment un attrait aussi d'un petit état asiatique qui est le Bhoutan. Pourquoi le Bhoutan ? Parce que le roi du Bhoutan a lui comme indicateur déterminant de ses politiques publiques, non pas le produit intérieur brut, mais le bonheur national brut. Alors, l'idée du bonheur national brut est certainement assez attractive, mais ce que nous montre Florbet, c'est aussi quelle pourrait être sa face sombre. Pourquoi sa face sombre ? Parce que, en décrivant les politiques publiques mises en avant par ce renouveau de l'économie normative, donc les applications dans les politiques publiques de ce renouveau de l'économie normative, on va se retrouver vite, très très vite, très proche du meilleur de monde d'Huxley, qui est d'ailleurs auquel il y a une rapide référence dans le texte de Florbet. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va conduire à un développement de nombreuses enquêtes internationales sur le bonheur, au point où le niveau de bonheur ressenti des gens va apparaître peut-être comme devenant, à la place du PIB, le principal indicateur des politiques publiques. Mais quel type de politique publique ça va suggérer ? Il nous dit que ces politiques publiques risquent d'être massivement réorientées vers la psychothérapie cognitive. Pourquoi ? Parce qu'on observe une déconnexion entre la satisfaction de vie ressentie, ce qui est donc mesuré par les indicateurs de bien-être, et les préférences subjectives, conscientes des individus. En particulier, notamment, la santé apparaît comme étant quelque chose qui est une préférence très importante pour les individus. Si on demande qu'est-ce que vous voulez absolument garder, la santé va revenir de manière très forte. Mais en fait, si on regarde l'impact de la santé sur la satisfaction de vie exprimée des gens, elle paraît très, très faible, étant donné qu'il y aura une forte adaptation des individus. Et donc, on est face à le constat d'une erreur des individus dans la formation de leurs préférences quant à ce qui réellement les rendra heureux. On passe vite de ce pas-là à la conviction que les politiques publiques devraient mettre en place, en tout cas des incitants, voire des contraintes pour corriger les préférences de vie. En tout cas, ce n'est plus les préférences conscientes exprimées par les gens qui comptent, mais c'est une politique peut-être plus autoritariste qui aurait la légitimité si de fait on observe une hausse de la satisfaction de vie. Alors, ce parcours, à la fois dans l'article, a quelque chose de très positif, me semble-t-il, en tout cas que je verrais de manière très positive dans ce renouveau de l'économie normative, mais assez inquiétant, me semble-t-il, quand même, dans les politiques publiques que ça paraît pouvoir générer. Alors, pourquoi ce renouveau de l'économie normative me paraît très positif? Comme premier commentaire, j'ai le sentiment que dans un contexte d'épuisement de notre modèle social et économique, confronté à ce que me semble-t-il être un triple défi, qui est d'une part les déséquilibres économiques qu'on voit apparaître tant au niveau macroéconomique en termes de déficit des balances commerciales et de niveau d'endettement public insoutenable, pensez notamment à la situation européenne actuelle, que au niveau microéconomique, pensez à la croissance des inégalités de revenus. Donc ce premier défi, auquel je rejoins deux autres défis, le réchauffement climatique et les enjeux environnementaux de manière plus large. Et troisième défi, l'impact démographique qui, dans nos sociétés occidentales, se caractérise d'abord par le vieillissement, mais à l'échelle plus globale, ça ne se limite pas au vieillissement, c'est notamment aussi la croissance démographique. Mais donc, pour les sociétés occidentales, c'est en particulier le vieillissement qui pose un problème sur la soutenabilité de notre modèle social et économique. Mais dans ce cadre-ci, un renouveau d'une perspective de type l'économie normative, ou en tout cas d'une éthique économique, d'une réflexion sur ce que devrait être l'économie, me paraît absolument indispensable pour développer des cadres théoriques alternatifs susceptibles de rencontrer deux objectifs. Premièrement, d'orienter l'action des dirigeants. Je pense qu'une des leçons de la crise économique actuelle, c'est que confrontés à des interactions économiques dont la complexité résiste assez fort à toute analyse exhaustive, les dirigeants politiques ont besoin de modèles normatifs simplificateurs leur permettant d'une part d'interpréter les événements économiques et d'autre part d'orienter leur action et j'en dirais d'expliquer également leur action, en tout cas de les justifier auprès du grand public. Premièrement. Deuxièmement, nous avons besoin absolument de construire des cas théoriques alternatifs afin de rendre les changements attractifs pour les citoyens. Et ça fait lien avec le panel précédent. Si l'on veut parvenir à avoir une transformation de notre modèle social et économique, si on est relativement persuadé qu'on est face à l'épuisement du modèle actuel, un des inconvénients, en tout cas un des enjeux, des défis centraux, va être de parvenir à motiver les citoyens pour ce changement, qui comme mon prédécesseur sur cette chaise le disait, aiment leur mode de vie, aiment notamment un niveau de consommation assez important. Et ça me paraîtra d'autant plus nécessaire d'avoir un cadre théorique susceptible de les motiver, que ce changement social ne se résumera pas, me semble-t-il, à une redistribution unilatérale des privilèges d'une minorité au bénéfice du plus grand nombre, mais prendra plutôt la forme d'un renoncement de tous à certains des acquis actuels au profit de bénéfices et d'avantages alternatifs. Et donc, l'importance de développer au sein d'une économie, d'une éthique économique ou d'une économie normative alternative, des cadres théoriques alternatifs permettant de motiver ce changement. Mais pour ce faire, et ce sera mon dernier point, deux conditions, me semble-t-il, doivent être remplies. Le premier, c'est de ne pas s'enfermer dans une éthique de l'économie qui pêcherait soit par l'abstraction logique, c'était peut-être le problème justement de la théorie du choix social, qui était essentiellement un formalisme logique, et dont Forbin a souligné l'impuissance politique, mais également éviter un autre danger qui est celui plutôt présenté par ce renouveau welfarisme pronostiqué par Flaubert, qui est une forme de réductionnisme empirique dont Flaubert donc agit le spectre. Or, me semble-t-il, c'est un risque qui n'est pas négligeable pour une éthique de l'économie, parce que ces deux alternatives, elles ont le mérite de permettre de donner à une discipline comme celle-là une forme de scientificité dure. Que ce soit un formalisme logique ou qu'on puisse s'appuyer sur de l'empirique, on est dans un modèle proche des sciences exactes ou des sciences empiriques, mais donc on est dans quelque chose qui est, en termes d'exigence de falsifiabilité, en termes d'exigence de scientificité, dans quelque chose qui paraît plus attractif qu'une science sociale. Donc au contraire, moi, je voudrais plaider pour défendre une conception de l'économie et a fortiori de l'éthique de l'économie ou d'une économie normative en tant que science sociale. Enfin, et c'est la deuxième condition, il me semble que ça impose de ne pas se contenter de réfléchir dans le cadre confortable de la théorie idéale, mais de s'intéresser aux conditions d'un progrès social dans le contexte de nos sociétés actuelles, avec du coup cette obligation d'identifier les leviers de changement tels qu'ils peuvent exister dans nos sociétés actuelles. Donc, je pense que le panel précédent illustrait bien cette tension aussi entre théorie idéale d'une part et difficulté d'identifier des leviers de changement, et du coup aussi le caractère parfois pouvant apparaître comme de second best des leviers sur lesquels on joue, par exemple parce qu'on accepte de rester dans le cadre d'une économie de marché et qu'on veut du coup jouer sur l'effet prix. La question des indicateurs sur laquelle je peux revenir, la question des indicateurs de développement paraît assez illustrative de cet enjeu, dans la mesure où il existe des flopées en fait d'indicateurs alternatifs ne se limitant pas à la satisfaction du bien-être, notamment des indicateurs qui essayent d'intégrer les enjeux écologiques, mais également toute forme d'externalité sociale générée par les interactions humaines. La difficulté n'est donc pas tellement d'inventer ces indicateurs alternatifs, ils existent, mais plutôt de parvenir à essayer de concevoir comment une société qui déterminerait ses politiques publiques sur ces indicateurs alternatifs, comment elle pourrait notamment être soutenable du point de vue de l'endettement public. Tant que, par exemple, les marchés financiers, donc les prêteurs auprès des États, continueraient à avoir une analyse, elle, par exemple, centrée essentiellement sur le PIB, un État qui aurait un indicateur de croissance qui serait autre ou qui minimaliserait l'importance du développement serait vite confronté à des taux d'endettement, par exemple, insoutenables. Donc on a une identification de leviers à trouver pour voir comment est-ce que ce changement d'indicateur au profit de, comme dit, guide de nos politiques publiques pourrait être, dans le cadre du financement de nos États, pourrait être tenable. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup Laurent qui a respecté le temps exact.